Christian Bobin, vos livres sont une invitation au voyage quand même, malgré tout. Un voyage dans la forêt ou au bord du lac de Saint-Cernin-du-Bois, pas très loin d'ici. Et puis moi, j'ai eu l'impression parfois de me trouver face à une montagne. Quand je vous lis, parfois, je suis face à une montagne. Et il y a des phrases, une phrase, qui me semble comme un Himalaya. Et je me dis, je comprends pas.
Donnez-moi un exemple.
Page 18, pas besoin d'aller bien loin. Je l'ouvre dès le début. Page 18. Il faudrait peut-être que je mette le contexte. Mais c'est cette dernière phrase de votre lettre à la chair inconnue.
Oui.
Et la dernière phrase.
Oui.
Le cœur, cette défaite prodigieuse.
Oui.
Et là, je cale. Je me dis, où veut nous emmener Christian Bobin? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors je le remets dans le contexte.
Oui.
Le cœur, quand il existe, se voit de loin. Un mont Fuji dans la poitrine. L'écriture doit venir nous chercher où nous sommes, nous sortir de la tombe de nos vies, faire revenir dans nos veines le sang vieil or de l'amour. Le cœur, cette défaite prodigieuse. Expliquez-moi, parce que le cœur est tellement important chez vous.
C'est... Quand vous aimez vraiment une personne ou une chose ou même un travail, quand vous aimez vraiment, vous êtes voué à une sorte d'échec miraculeux. Parce que ça ne sera jamais exactement comme vous vouliez. Ça ne sera jamais... Et puis, la vie est si dure par ailleurs. Elle vous oppose des choses à certains moments. Elle vous contre. Et elle a raison de le faire. Et puis même si elle n'avait pas raison, elle le fait. Donc, avec la volonté, vous gagnez des choses. Vous gagnez des places dans le monde. Vous le savez, vous avez fait une chose, si vous me permettez d'en parler, vous avez fait une chose incroyable. Travaillant quelque part, vous avez demandé le contraire d'une augmentation. Vous avez demandé à diminuer et à avoir un poste moins important. Ça n'existe pas, ça, d'habitude. Le cœur, il va vers ces choses-là. Donc, il ne gagne pas. Il ne gagne pas la loterie du monde. Jamais. Jamais.
Mais il gagne plus. Il gagne autre chose.
Oui, mais c'est autre chose que gagner à ce moment-là. C'est autre chose que gagner. Parce qu'un gain va toujours... Un gagnant va toujours avec des perdants. Et dans ces histoires-là, dans l'amour, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Le Christ parce que c'est quand même incroyable cette chose. Il y a un homme qui traverse la vie sur assez peu de temps. Ses parents ne le reconnaissent presque plus. Il se fait engueuler par sa mère parce qu'elle lui demande pourquoi il traîne avec une bande de va-nu-pieds et qu'est-ce qui lui prend de parler comme s'il était en direct avec le ciel. Il a une vie publique, dite publique, de à peu près 3 ans. Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit en gros? Il nous dit que il faudrait s'aimer les uns les autres, il faudrait avoir pour l'autre l'intérêt qu'on a pour soi-même. C'est tout, c'est juste tout. Et en récompense, on le cloue comme une chauve-souris sur du bois. Et voilà, fin du premier épisode, et voilà. Et bien ça, c'est une des plus belles histoires d'amour qui soit. Parce qu'il n'y a pas de triomphe. Il y en a juste une semaine avant le désastre, sur un petit âne, avec des rameaux. Mais c'est sur un petit âne, c'est sur un petit âne. Et les gens qui l'applaudissent, la foule qui l'applaudit, c'est la même qui va le laisser être crucifié. Donc, l'amour n'est jamais, jamais, jamais vainqueur. Mais c'est comme ça qu'il triomphe, au fond. C'est comme ça que, dans un sens, il gagne. C'est en perdant qu'il gagne. C'est-à-dire, l'effacement, rien n'est plus beau que le dévouement. Rien n'est plus beau qu'un sacrifice. Rien n'est plus beau que d'avoir fait quelque chose sans aucun intérêt propre, sans rechercher son intérêt, sans même plus penser à soi, sans même plus exister. Rien n'est plus beau. Mais ça s'accompagne aux yeux du monde qui veut des causes avec des conséquences et qui veut de l'éclat. Ça s'accompagne d'une obscurité et ça s'accompagne de beaucoup, beaucoup, beaucoup de pertes. C'est pour ça, le cœur, cette défaite prodigieuse. Le mot prodigieux vient sauver le mot défaite et l'emmène au ciel. Vous voyez ?
Vous ne parlez pas de Jésus dans ce livre, mais vous parlez de Dieu à deux reprises. J'ai bien aimé, et à un moment, vous dites « deux dominicains à table ». Dieu reprend du melon.
Oui, c'était cette table-là, vous voyez.
C'était celle-ci où nous sommes là.
Voilà, celle que je viens de...
Vous avez eu un jour deux dominicains autour de cette table.
Oui.
Et Dieu a repris du melon.
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ah ben, je voulais vous faire sourire. Apparemment, c'est réussi.
C'est réussi.
Apparemment, c'est réussi. Ouais. Une phrase comme ça, elle vient, hop, je claque les doigts, elle vient tout de suite, vous voyez. Ouais. Elle, je ne la pense pas. Je ne veux pas un effet des phrases, je ne cherche pas un effet. C'est-à-dire que c'est venu comme ça, c'est venu comme ça. Et après, j'en suis le premier surpris et je suis le premier amusé. Je suis le premier amusé. Ouais. Alors on peut détailler maintenant.
Bien sûr, on peut détailler, parce que ça veut dire que Dieu n'est pas dans ces grands discours théologiques que peuvent avoir les dominicains.
Oui, en même temps, il est là aussi quand même. Il est là aussi, mais il est peut-être là dans leur gourmandise plus que dans leur science théologique. Vous voyez? Ce sont deux personnes que j'aime beaucoup et que j'estime. Mais, oui, et puis vous savez, le nom de Dieu, il faut lui donner parfois un petit peu... Il risque d'être un petit peu trop enfermé, donc il faut l'emmener un petit peu à la fête.
Le rendre plus léger.
Le rendre plus léger, lui passer la main dans les cheveux, quoi.
Il y a un autre passage, moi, que j'ai vraiment adoré. C'est quand vous écrivez à votre bol. Mon pauvre bol. Vous lui écrivez, et vous écrivez ceci. Ton cratère était blanc, et cette blancheur sans éclat était l'uniforme de ton inexistence. Un bol aux cannelures framboises, venu d'une manufacture du nord de la France. Tu accueillais le thé noir du matin. Je te serrais entre mes mains, te volant sans scrupule ta chaleur. Tu avais la force d'un livre de prière. La brûlure transmise à mes mains me prouvait l'existence de Dieu, comme tout choc élémentaire entre le monde et ma chair. Dieu est à cette jointure. Mais tu me fais dire n'importe quoi. Je remets ta forme disparue devant moi et je continue. Parfois, parce que tu étais vide ou que le thé s'était refroidi, je n'avais plus en te prenant aucune sensation dans les mains. Dieu n'est plus par instant. C'est sa plus subtile façon d'être. Parler de Dieu à travers un bol.
Oui.
Ça, c'est la signature de Christian Bobin. Et c'est incroyable ce que vous mettez dans ce bol.
Oui.
Pour nous faire découvrir Dieu.
Oui.
Et surtout la fin, cette subtile façon d'être de Dieu, qui est quoi dans le vide, dans le retrait.
C'est ça. Dans son presque contraire, dans son absence, dans ce qui semble être son absence totale.
Dans une présence-absence.
Oui, et il ne reste plus à ce moment-là qu'une confiance, mais injustifiée. Injustifiable. Et pourtant là. On rejoint un petit peu ce qu'on avait dit un peu plus haut, à propos de cette main qui vous empêche de sombrer. Rien ne vous la prouve, rien ne vous la justifie. Peut-être même une des plus belle preuve de Dieu, c'est qu'on ne peut pas avoir de preuve sur lui, de lui. Et vous savez, le bol, c'est une expérience commune. Je ne fais que relater une expérience commune à ma façon, certes, mais c'est l'expérience d'une perte. Notre attachement va parfois vers des toutes petites choses, et parfois, la perte des petites choses engendre un chagrin qu'on ne saura pas bien dire. Qu'on n'osera pas dire. Il faudrait parfois regarder ce qui se trouve dans la maison de retraite, le peu d'objets qui accompagnent les gens dans leurs dernières années, qu'ils ont choisis, qu'ils ont élus. Si une de ces choses vient à se casser, c'est par le chagrin que ça engendre et par cette faille que quelque chose arrive qui est paradoxalement un gain, quelque chose, comment dire. En plus, c'était pas un bol très, il avait rien de particulier puisque il venait d'une, bon, il sortait de l'industrie, il était pas façonné par un artisan. Mmh.
C'était un bol ordinaire.
C'était un bol tout à fait ordinaire, tout à fait ordinaire. Et c'est moi qui cognais sa tête contre le contre le robinet, en le lavant. Avec une seconde d'inattention. Une seconde d'inattention. Mais il y a un bol aussi dans les poèmes de Ryokan. C'est ce qu'il appelait son bol de mendicité. Et parfois, il le perdait.
Il faut savoir que les moines mendiaient leur nourriture. Et c'est voilà. Ce que faisait Ryokan.
Voilà, on leur donne du riz. Le plus souvent du riz. Et qu'il leur fait un repas. Et son bol de mendicité, il le posait dans l'air pour jouer avec des enfants, parce qu'il attirait les enfants. Les enfants aimaient bien cet homme qui ne ressemblait pas aux grands, aux adultes, aux autres adultes. Et de jouer ou de sourire avec eux, il laissait son bol dans l'air, mais après, parfois, il ne le retrouvait plus. Et il en avait un chagrin. C'est beau, le chagrin d'un saint. C'est beau qu'un saint ait une faiblesse pour un tout petit objet. Parce que je crois, moi, que dans certains objets, nous mettons le plus... Curieusement, nous leur demandons de prendre en garde le meilleur de nous-mêmes, de le garder.
Et c'est pas une forme d'attachement, contraire au principe des moines bouddhistes.
C'est une forme d'idolâtrie, c'est une forme d'attachement. Mais comme, Dieu merci, personne n'est parfait, c'est très bien comme ça, c'est très bien. Je ne suis pas pour vanter le détachement absolu parce que d'abord je crois que c'est impossible et puis le détachement peut ressembler à quelque chose d'extrêmement glacial comme l'intérieur du frigo, voyez. Donc
c'est pas le cas avec Ryokan en tous les cas.
Ah non,
c'est pas le cas avec vous.